le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Capagnon et voici vos manchettes en ce mardi 20 octobre. Plusieurs bureaux de scrutin inaccessibles selon Le Devoir. La Ville de la Prairie annonce des mesures d'accessibilité. Semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral, les familles aussi sont importantes. TDAH Mon Amour, apprendre à vivre avec le TDAH avec ou sans médicaments. Semaine des proches aidants, une réalité à reconnaître. Et Longueuil honore ses athlètes des Jeux panaméricains et parapanaméricains. Selon Le Devoir, les défis étaient multiples en ce jour d'élection fédérale pour les électeurs à mobilité réduite souhaitant exercer leur droit de vote. Bénévoles non préparés, isoloirs inadaptés et rampes d'accès difficiles à trouver, voire inexistantes. Voici quelques-unes des embûches auxquelles se sont butés les électeurs handicapés d'un peu partout au pays. Des discordances entre le site d'Élections Canada et les cartes d'électeurs ont également été rapportées tout au long de la journée. Une page Facebook appelée « Élections 2015 Canada, vote accessible, accessible voting » a d'ailleurs été lancée pour permettre aux électeurs mécontents de dénoncer ces situations. Ils sont invités à partager des photos et des commentaires de leurs bureaux de scrutin respectifs. Selon Élections Canada, 96 % des lieux de scrutin au pays respectent la quinzaine de critères obligatoires pour être considérés comme étant universellement accessibles. La Ville de la Prairie a mis sur pied une série de mesures qu'elle compte réaliser d'ici 2016 dans le but de faciliter la vie aux personnes handicapées de son territoire. Ce nouveau plan d'action 2015-2016, publié sur le site de la municipalité, s'inscrit dans le cadre de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de l'intégration scolaire, professionnelle et sociale. La directrice de l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud, l'APHRSO, Nancy Côté, se réjouit que l'accessibilité de la maison de la famille Kateri fasse entre autres partie de la liste. C'est une problématique qu'avaient soulevé nos membres et la directrice de l'organisme Francine Laliberté, commente Mme Côté. Comme c'est une bâtisse qui appartient à la ville, il devait y avoir une volonté politique de changement, ainsi ce qu'on constate dans ce plan. Dépendamment des coûts qui s'y rattachent ainsi que du budget, le projet pourrait être réalisé en 2016. Si toutes les mesures prises par les villes sont vues de façon positive par la PHRSO, l'organisme souhaiterait que les municipalités qu'elle dessert aillent plus loin et se dotent d'une politique d'accessibilité universelle. Ce serait bien d'avoir un document écrit, un énoncé de principe qui dicte aux élus ce vers quoi ils doivent tendre, explique Mme Côté. Quand on travaille avec les mêmes personnes depuis longtemps, ça va bien, mais après des élections, c'est souvent à recommencer. Une politique donnerait l'heure juste à tout le monde. La 13e semaine québécoise du traumatisme crânio-cérébral, le TCC, se déroule du 18 au 24 octobre. Cette année, le regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec souhaite sensibiliser la population aux effets collatéraux du TCC. Avec le thème « Les familles proches, les grandes oubliées dans les services », le regroupement souhaite mettre de l'avant le fait que le traumatisme crânio-cérébral n'affecte pas que la personne qui en est victime, mais également tout son entourage. En effet, les séquelles découlant du TCC, qui peuvent être d'ordre physique, cognitif, affectif ou comportemental, sont souvent permanentes. Les proches doivent donc parfois apprendre à vivre avec une toute nouvelle personne. Mais les familles ont peu de ressources pour faire face à cette nouvelle situation et peu de services de répit leur sont offerts, déplore Mme Nicole Tremblay, présidente du regroupement des associations de personnes traumatisées crânio-cérébrales du Québec et mère d'une jeune adulte ayant subi un TCC grave. Ils s'appellent Alexandre, Christopher et Jean-Philippe. Ils ont respectivement 17, 14 et 26 ans et vivent tous trois avec un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, le TDAH. Ce sont les têtes d'affiche de l'un des trois volets de la série documentaire TDAH Mon Amour, animé par Claire Lamarche et diffusé à Télé-Québec le lundi à 21h, dès le 26 octobre. Alexandre a sombré dans la drogue, fait une overdose et s'est métamorphosé après un séjour au centre de thérapie Portage. Il ne prend aujourd'hui plus de psychostimulants, le médicament prescrit pour traiter le TDAH. Christopher a connu de sérieux problèmes à l'école et soutenu par ses parents, il a trouvé sa voie dans la musique sans Ritalin. Jean-Philippe a balayé son passé de délinquant pour se lancer dans le sport et poursuivre des études universitaires. Il a choisi de prendre assidûment le médicament qu'on lui a prescrit lorsqu'il avait 11 ans. Voilà les trois parcours très différents présentés dans le volet adolescent de la série TDAH Mon amour, qui sera présenté le 2 novembre. Le volet qui présente la réalité des enfants sera en ondes le 26 octobre et celui sur les adultes sera diffusé le 9 novembre. Selon le site Maman pour la vie, l'intérêt de la série réside justement dans le fait qu'on y constate à la fois les ravages de ce trouble, mais aussi les différentes façons de l'approcher. Le TDAH est une facette de leur personnalité, dit avec beaucoup de justesse Guillaume Potvin, intervenant à Portage. Ce ne sont pas des enfants TDAH, mais des enfants qui ont un TDAH. Ce n'est pas la même chose. L'équipe de Claire Lamarche, derrière les séries « École à l'examen » et « Soins intensifs », entre autres, a choisi de ne pas plonger au cœur du débat médical autour du TDAH. Ce que nous avons cherché à savoir en les accompagnant dans leur vie quotidienne à l'école, au travail ou en famille, c'est comment eux, ils naviguent là-dedans, a expliqué la célèbre animatrice. C'est sous le thème « Je suis proche aidant, j'ai besoin d'être reconnu » que le Regroupement des aidants naturels du Québec, le RANQ, soulignera la Semaine nationale des proches aidants du Québec du 1er novembre au 7 novembre 2015. Le RANQ rappelle que près de 20 % de la population des 15 ans et plus sont des proches aidants. Ils forment la structure portante du réseau de la santé, car ils assument 80 % du soutien à domicile. C'est le 6 novembre 2007 que l'Assemblée nationale du Québec a reconnu officiellement l'apport des proches aidants en déclarant la première semaine de novembre comme étant la Semaine nationale des proches aidants du Québec. Pour Mme Joanne Audet, présidente du RANQ, force est de constater que malgré cette déclaration des élus, les conditions de vie de ces milliers de personnes s'amenuisent sous le manque de ressources. Pour le RANQ, le rapport de la protectrice du citoyen paru le 17 septembre dernier vient confirmer ce que les groupes de proches aidants constatent sur le terrain, c'est-à-dire le manque de ressources. À travers le Québec, des personnes de proches aidants organiseront diverses activités afin de souligner cette semaine nationale sous le signe de la reconnaissance. Cette reconnaissance, pour être pleine et entière, doit être accompagné de mesures concrètes pour soutenir le fardeau des proches aidants. Le RANQ demande des services de soutien à domicile et d'hébergement de qualité et accessible, plus de temps de répit et de l'aide psychosociale. Les proches aidants sont mobilisés chaque jour pour soutenir leurs proches. Il est temps que le Québec se mobilise pour les soutenir concrètement, a conclu Mme Audet. Dans le but de souligner la participation de 9 athlètes longueuillois aux Jeux panaméricains et parapanaméricains qui se tenaient respectivement en juillet et août 2015 à Toronto, la Ville organisait le 6 octobre dernier une cérémonie de reconnaissance pour féliciter ces hommes et femmes qui se sont illustrés lors de ces compétitions sportives de haut niveau. L'événement s'est déroulé en toute convivialité à l'Hôtel de Ville, en présence de la mairesse Caroline Saint-Hilaire, de représentants du milieu sportif de Longueuil, d'élus et de proches des athlètes honorés. 4 athlètes ont pu participer à l'événement. Les autres étaient retenus à l'extérieur, en compétition ou en entraînement. Ils ont reçu un certificat honorifique, un cadeau protocolaire et ont été invités à signer le livre d'or de la ville. Parmi les athlètes honorés, on retrouvait les para-athlètes Benoît Huot, Nancy Morin, Valérie Drapeau ainsi que Marie-Claude Molnar. C'était votre bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés sont disponibles au vuesetvoix.com. Vous pouvez aussi envoyer vos nouvelles au canalm@vuesetvoix.com. Bonne journée.